I'm gonna send him to outer space.
Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org.
To find another race. I'm gonna send him to outer space.
Nous sommes le 20 juillet 2021, à 20 ans pile aujourd'hui, du décès de Carlo Giuliani, militant altermondialiste qui à l'époque avait 23 ans, qui fut tué d'une balle d'un tir direct dans la tête par un carabinier place Alimonda à Gênes. Le véhicule de police a par ailleurs roulé deux fois sur son corps moribond. C'était au moment du G8 à Gênes. Alors je fais un bref rappel des faits avant que l'on devise avec le comité de soutien à Vincenzo Vecchi, qui était un manifestant dont on va parler, qui a été condamné extrêmement lourdement pour le fait d'être présent à cette manifestation et également pour la manifestation à Milan, une manifestation antifasciste dont on parlera également tout à l'heure. Alors le rappel des faits, le sommet du G8, donc c'est une réunion des sept pays les plus industrialisés et la Russie, qui se tint du 20 au 22 juillet 2001 à Gênes. Un contre-sommet se tint simultanément pour en dénoncer les méfaits et pour en perturber le fonctionnement, ainsi que d'alerter sur ces conclaves illégitimes, opaques et clairement antidémocratiques. Alors de nombreux événements de contre-information se tinrent, des mobilisations pacifiques également, aux alentours des zones qui furent interdites. Il y a vraiment une suspension du droit de déplacement des personnes, que maintenant on connaît de plus en plus, mais qui à l'époque avait fait quand même scandale, et accompagnée d'une répression féroce, qui aboutit, comme on l'a dit, au meurtre de Carlo Giuliani le 20 juillet 2001. Alors Amnesty International a qualifié la répression des manifestants pacifiques de, je cite, « plus grande violation des droits humains et démocratiques dans un pays occidental depuis la Seconde Guerre mondiale ». Fin de citation. Ce n'est qu'en 2017 que les autorités policières reconnaîtront officiellement les exactions. Je cite à nouveau « à Gênes, un nombre incalculable de personnes innocentes ont subi des violences physiques et psychologiques qui les ont marquées à vie. » Fin de citation. Alors il y a eu un procès en mars 2008, 7 ans plus tard. Des peines pour un total de 76 années et 4 mois à l'encontre de 44 inculpés sont requises et les policiers, les carabiniers, les agents pénitentiaires et médecins accusés d'abus de pouvoir, de violences privées, d'injures ou de coups, également accusés de falsification de preuves et notamment ayant apporté des cocktails Molotov sur place, aucun, je dis bien, ne purgera sa peine du fait d'une loi d'amnistie instaurée en 2006. Pour en terminer, le 19 juillet 2017, le chef de la police italienne Franco Gabrielli déclare dans le journal La Repubblica que ces manifestants ont été victimes d'actes de torture. Alors voilà, ça c'était pour contextualiser notre histoire. Bonjour à vous, Laurence et Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Donc vous deux, vous faites partie du comité de soutien à Vincenzo Vecchi, qui lui-même a été, comme on l'a dit, lourdement condamné. On va tout de suite donner le site internet, parce que sur votre site internet, qui est extrêmement bien documenté, il y a notamment également une chronologie des faits du début à la situation actuelle, qui permet aux personnes qui souhaitent aller plus avant dans ces informations-là de se renseigner. Donc le site internet, c'est www.comité-soutien-vincenzo.org. Vous êtes également présent sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube, c'est ça?
Absolument, oui.
Très bien. Donc on vous trouve en notant comité de soutien Vincenzo, avec qui je pense.
Pour Facebook, c'est Soutien Vincenzo, tout simplement. D'accord. C'est le nom de la page, Soutien Vincenzo.
Très bien. Alors, on vous remercie déjà beaucoup de prendre du temps pour répondre à nos questions. On va procéder comme ça. On va vous demander de vous présenter un petit peu vous, ainsi que évidemment que le comité. Donc, à votre guise, vous direz ce que vous voudrez bien dire. Ensuite, il y aura une petite partie de questions autour desquelles on a un peu échangé au préalable. Et puis ensuite, ici, il y a des personnes qui, si elles le souhaitent, pourront venir accoster le téléphone pour pouvoir vous poser des questions. Est-ce que ça vous convient comme ça?
Tout à fait.
Allez, alors on y va. Alors, tout d'abord, voudriez-vous, avant que vous ne vous présentiez vous-même, voudriez-vous nous dire dans quel état d'esprit se trouve Vincenzo Vecchi? Après, ben voilà, ce dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire les rebondissements à répétition et cette persécution judiciaire dont il est victime. Alors, dans quel état d'esprit se trouve-t-il en ce moment et quelle est sa situation?
Vous imaginez bien que Vincenzo est poursuivi effectivement de manière complètement délirante et injuste depuis maintenant plusieurs années en France. Ça va faire 2 ans le 8 août qu'il a été arrêté et que la procédure se démultiplie puisque maintenant on est passé en Cour européenne de justice. Donc évidemment que pour lui c'est une situation difficile, hein. C'est une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de sa tête. Il est libre, c'est vrai. Il est libre d'aller et venir dans le cadre de l'Hexagone. Hein, il ne peut pas en sortir, bien évidemment. Mais en sachant qu'à tout moment, la sentence peut tomber et que cette sentence, c'est quand même 12 ans et demi d'emprisonnement en Italie qui l'attend. C'est au cas où on renverrait, où la justice déciderait de le renvoyer en Italie. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel il est. Maintenant, heureusement pour lui... il y a eu une forte solidarité, un fort mouvement de solidarité qui s'est fait autour de lui au moment de son arrestation et ensuite. Et par exemple, il a un travail qui lui a été proposé, un CDI, dans une entreprise, une SCOP locale qui fait de la construction naturelle, bois, ossature bois, etc. Donc, avec une équipe dans laquelle il est bien intégré, qui sont des copains, il peut effectivement mener une vie au niveau du travail qui soit le mieux possible. Et puis, au niveau du logement, il est parents sont en terre, il est entouré d'amis. Voilà. Les conditions matérielles de sa vie ne sont pas désagréables, mais n'oublions jamais que cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête est formidablement effrayante. Ouais, ça empêche de faire des projets, ça empêche de pouvoir mener sa vie normalement.
Oui. Alors, quelles sont les échéances qui sont à nos portes concernant voilà sa situation, parce que comme tu l'as dit, eh bien évidemment il y a cette épée de Damoclès et il y a certainement un calendrier, j'imagine, à craindre. On reviendra après sur les chicaneries judiciaires qui ont eu cours, notamment voilà le déplacement du procès, également des reports, des cours de cassation vraiment qui sont venus s'ajouter. Mais voilà, quelles sont les prochaines échéances et quelles mobilisations éventuellement sont d'ores et déjà prévues?
Alors, en fait, la Cour de cassation donc avait décidé d'une procédure d'urgence, d'une procédure accélérée. Donc, en fait, elle espérait que l'Europe réagisse rapidement et le retour en cassation devait être le 22 juin. Et en fait, c'était une date qui n'est pas du tout retenue par la Cour de justice européenne, sachant qu'elle estime qu'il n'y a pas un caractère d'urgence dans cette affaire. Et donc... Alors, pour l'instant, il y a juste une date de fixée, c'est le 7 décembre 2021 en cassation, mais c'est une date complètement fictive pour remplir un calendrier de cassation. Il est très fort probable que le temps que la Cour de justice européenne donne son avis, ça risque d'être en 2022, pourquoi pas en 2023. Enfin, on n'est pas maître du tout de la temporalité aujourd'hui, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Et ce qui est un vrai problème pour l'instant, justement, c'est le fait de pouvoir se projeter, de mettre en place des projets et tout ce type de choses. Alors, pour compléter ce que disait aussi Laurence tout à l'heure, je crois que Vincent, malgré tout, ce qu'il apprécie en ce moment, c'est que de son cas particulier, on retourne un peu à la problématique des lithogènes en passant par la Cour de justice européenne. On repart sur un peu la dimension collective de ce qu'a été Gênes et non plus sur le cas particulier de Vincenzo Vecchi. Je crois que ça, il l'apprécie parce que tout était centré effectivement sur son nom. Et je pense que la problématique est bien plus large que lui-même, quoi, en fait.
Absolument, oui. Alors, concernant les mobilisations, est-ce que vous avez d'ores et déjà voilà, prévu ou en tout cas vous vous questionnez sur les prochaines étapes? Si j'ai bien compris, là on en est à la Cour européenne de justice. Donc ça c'est le premier volet de la question, les mobilisations auxquelles on pourrait d'ores et déjà penser. Et puis le deuxième volet c'est que risque-t-il? Est-ce que très concrètement il pourrait être réellement extradé et du coup, en Italie, c'est à la prison qui l'attend?
Ah, si la Cour de justice européenne rend un avis qui est favorable à une extradition, c'est pas elle qui décidera, elle rendra son avis. À ce moment-là, la Cour de cassation va statuer et elle peut décider de casser, parce que c'est son rôle, hein, de casser le jugement qui a été rendu à Angers. Faut pas oublier que pour l'instant, la défense de Vincent est gagnante, si j'ose dire. Hein. Pour l'instant, la justice en France a donné raison à la défense de Vincent. Mais il peut en être autrement si la Cour de justice dit conseil à la Cour de cassation de casser effectivement la décision d'Angers. Et à ce moment-là, il pourrait effectivement retourner en Italie et purger là-bas les 12 ans et demi de prison qui l'attendent.
Donc ça, c'est un risque tout à fait concret.
Ah, mais c'est un grand risque et c'est quelque chose, si vous voulez, on se rend compte que cette temporalité dont on n'est absolument pas maître, comme le disait Jean-Pierre, et ces temps infinis qui sont devant nous, c'est quelque chose d'assez pervers, parce qu'en fait, on attend, on piétine, et très difficile de rester mobilisé, motivé, on l'est, mais rester mobilisé, c'est difficile. Quand ces temps sont aussi longs, et là, effectivement, on parlait de fin 2022, peut-être même début 2023.
Oui. Comment est-ce que vous expliquez cette persécution judiciaire à ce point-là? Et voudriez-vous en même temps nous dire justement comment Vincenzo a refait sa vie, voilà, lui qui a été donc arrêté le 8 août 2019 alors qu'il se rendait à son travail, lui qui est devenu peintre en bâtiment et qui aussi, j'ai bien compris, s'impliquait même dans la vie associative du village où il était, donc Rochefort-en-Terre. Voilà, comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait cette folie, cette persécution judiciaire?
C'est assez, c'est culturel, si vous voulez. C'est culturel et c'est culturel spécifiquement à l'Italie. L'Italie est un pays qui a toujours fait preuve, je dirais, d'une autorité extrême vis-à-vis de ses ressortissants et vis-à-vis des gens dont elle considère qu'ils sont en faute. On a des membres du comité qui connaît bien l'Italie, disaient, mais les Italiens, depuis les Romains, ils vont chercher et ils ne lâchent pas, ils ne lâchent jamais un fugitif, quelqu'un qui leur échappe, ils le chercheront et ils finiront par le trouver. Donc déjà, culturellement, c'est quelque chose qui existe dans la culture italienne. D'autre part, il ne faut pas oublier que quand les mandats d'arrêt ont été mis en œuvre pour Vincenzo, Salvini était au pouvoir et Salvini, souvenez-vous, 6 mois ou 8 mois avant, avait dit « Je ferai revenir en Italie tous les fugitifs qui sont partis, notamment en France. » Donc voilà, il avait engagé sa parole à ce niveau-là. Après, quand Vincent a été arrêté, Salvini était encore au pouvoir, mais c'est vrai que dans les semaines qui ont suivi, il ne l'était plus. Mais les organes du pouvoir italien sont toujours là. Ça n'est pas le fait que ce ne soit plus Salvini, que ce soit un autre parti, ne change rien, si vous voulez, aux engagements qui peuvent être pris. Il ne faut pas oublier que l'Italie est un pays qui a été fasciste et qui reste assez fascisant dans ses façons de faire.
Ouais. Est-ce qu'il y a une sonnerie de votre côté?
Oui, il y a une sonnerie. Désolé, on n'arrive pas à l'arrêter.
Pas de souci, on va juste attendre que ça s'arrête.
Ouais,
pas de souci.
Aucun
problème. Je continue ?
Ouais, on y va.
D'accord.
Ah. On est son chien.
Non, mais tranquille, hein, y a pas d'urgence. C'est bon, on peut attendre tranquillement que ça s'arrête.
Je suis pas téléphone qui sonne, je crois que c'est la.
C'est Jean-Yves où, ce machin qui sonne ?
Oui,
Je peux faire mon avis, c'est là. Ok, je vous remercie. Comment on peut le brancher? Bon, c'est bon, ça y est,
on va faire. D'accord, alors je continue. Selon vous, est-ce qu'il est crédible, possible, envisageable? Est-ce qu'on peut imaginer une loi d'amnistie en Italie ou est-ce qu'on peut tenter quelque chose de ce point de vue-là pour que, effectivement, Vincenzo et ses co-accusés, parce qu'il n'est pas le seul à risquer de lourdes peines, puissent être une bonne fois pour toutes exemptés, en tout cas qu'ils ne soient plus l'objet de cet acharnement judiciaire. Je dis ça aussi à l'aune de cette fameuse loi qui a été appliquée, ce délit de concours moral, qui est tout à fait spécifique et qui est, si j'ai bien compris, un héritage de Mussolini et qui fait que l'on peut être, qu'il n'est pas nécessaire de participer directement à des actions pour être accusé et pour être victime de la répression, qu'il suffit d'être juste présent là où elle se déroule pour être accusé et éventuellement arrêté. Voilà, pensez-vous que, voilà, une loi d'amnistie, selon vous, est-ce que cette piste-là pourrait être questionnée ou vous pensez que c'est vain?
Je crois qu'il n'y a rien à attendre de ce côté-là. C'est très peu probable. D'ailleurs, on a même eu vent là de un des disques qui était dans une communauté. Alors en Italie, les communautés, c'est un peu des centres sociaux qui accueillent des gens en difficulté. Alors je pense qu'il était peut-être en difficulté. Donc il est sorti de prison, on l'a mis dans une communauté et là il vient d'être réemprisonné à des disques de gêne. Donc ils ne sont pas du tout sur la démarche du pardon et de l'oubli. Hein. Je crois qu'il y a juste la Cour de justice européenne via le mandat d'arrêt européen qui peut protéger Vincent à minima et la décision de la justice française. Mais autrement, je crois que le jour où il en est lié, il fait ses 12 ans et demi. Hein.
Donc selon vous, voilà, les derniers remparts, c'est la Cour de justice européenne et effectivement la justice française qui peuvent faire barrage, c'est-à-dire en évitant qu'il soit extradé.
Oui, exactement. C'est pour ça que nous, on continue ce lobby, justement. Vous parliez de quelle action on prévoit. Alors c'est compliqué parce que la temporalité au début était très rapide, il a fallu réagir très très vite. Et là maintenant, on est dans une période un peu de flou qui prend du temps. Et voilà, on a beaucoup de plus de mal, je dirais, à réagir et à se poster et à continuer à dire qu'on existe pour continuer à influer, justement. Et c'est une de nos difficultés du moment, mais on est persuadé que si la justice ne serait pas au niveau européen ou français, c'est foutu. Hein. En Italie, il fera sa peine, quoi qu'il arrive.
D'accord, ouais. www.comité-soutien-vincenzo.org. Vous êtes également présent, on l'a dit, sur Facebook et une chaîne YouTube. Ça permet aux personnes de renseigner plus en avant. Alors voilà.
Dernièrement,
Excuse-moi, peux-tu répéter?
Dernièrement, on est aussi sur Twitter. Alors, je ne maîtrise pas bien, mais on est aussi sur Twitter.
Très bien. Ah bah, quoi qu'il en soit, nous, on mettra tous ces liens-là au libellé du podcast. Donc les gens n'auront qu'à cliquer dessus. Ce sera très facile.
Oui, vous les trouverez sur notre site aussi, hein, tout ça. Très bien. Sans problème.
Alors voilà, je rappelle que le site est effectivement très bien fait. Il y a notamment voilà cette chronologie qui explique tout à fait bien le déroulé de la situation de Vincenzo Vecchi et comme vous l'avez dit, qui ne touche pas que lui, mais un ensemble de personnes et qui touche effectivement à cette répression féroce qui a cours et dont nous également en Suisse on voit des stigmates surgir, notamment avec des lois qui apparaissent, qui sont pour le moins problématiques. J'aimerais qu'on parle un petit peu du comité de soutien. Qui êtes-vous au comité de soutien? Comment ça s'est déclenché et comment en êtes-vous arrivé là?
Alors en fait, ça s'est déclenché assez naturellement. Ici, en fait, ben là ce soir, on est dans un bar associatif, c'est le bar du village. Et on habite un tout petit village qui fait 600 habitants, où au final, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Et en plus, il y a une vie associative et militante assez forte sur ce territoire. Ça fait qu'en fait, on avait déjà un peu différents réseaux qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Et que ce cas concret nous a fédéré rapidement et spontanément. Et puis tout simplement parce que chacun d'entre nous, on connaît Vincent, c'est quelqu'un de proximité. Moi, personnellement, c'est mon voisin. On se voit presque quotidiennement. Et donc, il y a même pas eu de réflexion plus que ça. Ça a été très spontané chez la plupart des gens. Et ceux qui n'étaient pas là, qui étaient en vacances, dès qu'ils sont revenus, ils ont accroché le groupe. Enfin, pour nous, on n'a pas vraiment réfléchi. Et tout le monde a suivi très rapidement, en fait. Ça s'est fait vraiment naturellement. Et je pense que c'est beaucoup lié au fait d'être en milieu rural, de se connaître, de se côtoyer régulièrement. Et voilà, on n'a pas pour habitude de lâcher l'un des nôtres et on considère Vincenzo comme l'un des nôtres.
Ouais. Pourriez-vous nous décrire un petit peu quelques actions passées que vous avez suscité? Je pense également à tout le travail que vous avez fait au moment où il y a eu cette première incarcération. Il y a également eu des reports de procès, des déplacements de procès hein, à Angers. Est-ce que là, on peut est-ce à dire qu'il y a réellement des chicaneries judiciaires qui sont là pour empêcher, en tout cas, pour biaiser la solidarité?
On peut se poser la question, alors on n'en est pas là dans notre réflexion, mais effectivement, ça n'a pas été simple pour nous de nous organiser, de passer de Rennes à Angers, puis de Angers à Paris. Enfin, ça demande des moyens sonnants et trébuchants, ça demande de la mobilisation et du dynamisme. Enfin, effectivement, là, on pourrait estimer que l'affaire est en train de... On laisse traîner l'affaire volontairement. On n'en est pas là, je crois que la procédure judiciaire est très compliquée, c'est surtout ça le problème. Parce que même nos avocats ont du mal à suivre, même des avocats spécialisés ont du mal à nous informer de comment ça se passe vraiment les choses. Enfin, c'est, je pense qu'on est rendu dans une zone du droit qui n'avait pas été explorée pratiquement.
Ouais.
Et c'est une des grosses difficultés.
Oui, tout à fait. Quels sont vos besoins au sein du comité de soutien actuellement? Est-ce que vous recherchez des personnes pour vous aider, peut-être des avocats, ou alors tout simplement des personnes qui puissent relayer cette information-là? Y a-t-il des collectifs analogues qui relayent également et qui soutiennent de loin votre cause?
D'abord, je dirais qu'il y a plusieurs choses. D'abord, en ce qui concerne les avocats, ils étaient trois dès le départ. Ils ont continué à exister. Ensuite, il y a eu un avocat de cassation qui s'est adjoint à eux. Et depuis maintenant plus d'un an, les avocats italiens ont rejoint la défense de Vincenzo. Et c'est important parce qu'effectivement, ils apportent leur connaissance des lois italiennes. Même si l'Italie est à deux pas de la France, on se rend compte qu'il y a des difficultés, y compris d'un point de vue juridique, pour arriver à se comprendre et pour arriver à mettre les armes en commun. C'est pas forcément facile. Donc on a déjà, je dirais, cette équipe d'avocats qui travaille avec nous et où le comité essaye d'être au plus près de leurs demandes de traduction, d'apport de documents, etc. Donc tout ce travail se fait. Déjà, je dirais qu'une émission comme la vôtre, hein, un coup de téléphone comme le vôtre, ce sont des choses dont on a besoin en ce moment. On a besoin effectivement de parler avec différents supports de communication, on a besoin de communiquer, on a besoin de tout ça. Maintenant, c'est vrai que les travaux de communication, les travaux de mobilisation qu'on a fait au départ ne sont plus exactement ceux qu'on fait aujourd'hui. Il y a eu beaucoup, je dirais, jusqu'en décembre dernier, il y a eu un certain nombre de conférences de presse, il y a eu un certain nombre de choses de ce genre. Là, on était un petit peu en ce moment, non pas à l'arrêt, mais en tout cas en attente de l'évolution du juridique. On est vraiment un petit peu sous la coupe du juridique en ce moment, en fait. Depuis que la cassation a demandé à la Cour de justice européenne de donner son avis, on se retrouve dans un autre domaine juridique, on se retrouve très éloigné, je dirais, des connaissances qu'on pouvait avoir jusque-là. Donc c'est vrai qu'on est un peu forcé, on est un petit peu dans un espèce d'arrêt sur image, et on doit un peu attendre le bien vouloir de la Cour de justice européenne et de ses décisions. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Au-delà de ça, on continue quand même à communiquer. Il est possible qu'on soit sur différents événements, je pense par exemple à la fête de l'UMA en septembre à Paris, etc., différents organismes qui nous sollicitent et qui sont à nos côtés depuis le début, par exemple celui-là.
Il y a une action aussi dont on peut vous parler, c'est que justement on a lancé un appel à témoignage pour des gens qui étaient présents sur Gênes, pour qu'ils puissent témoigner justement de cette violence policière, des exactions de la police. Donc on a lancé ça via notre site, pour l'instant on a une vingtaine de témoignages je crois, mais justement vous de votre côté peut-être vous pouvez connaître aussi des Suisses qui étaient présents à Gênes. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous apporter ces témoignages parce que ça nous est précieux pour un peu expliquer comment ont fonctionné ces trois jours sur Gênes et qui sont méconnus en fait de la plupart des gens. Nous on en parle beaucoup autour de nous et on se rend compte que plein de gens découvrent cette réalité-là et probablement du fait que Gênes c'était juste avant le 11 septembre aux États-Unis. Et je pense que le 11 septembre a effacé rapidement dans les mémoires ce qui s'est passé à Gênes.
Alors, c'est très bien que tu parles de ça juste maintenant, parce que nous sommes ici pour faire cette émission. Et d'ailleurs, on les remercie. On est au CILUR, qui est un centre de lutte autonome à Genève, qui, bien entendu, tente, avec tous ses moyens, de plein de pistes de résistance et de d'informations critiques sur ce qui nous entoure et ce qui nous assiège. Et il se trouve qu'effectivement, on voulait également profiter de ce moment où on devise ensemble pour vous demander si on pouvait, de notre côté, prendre quelques-uns de ces témoignages pour en faire des lectures que l'on mettrait sur un support audio pour que les personnes qui ont peut-être un inconfort à lire ou qui préfèrent tout simplement juste écouter les choses, puissent également le faire. Et ça pourrait être, pourquoi pas, un atelier que l'on produirait ici, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, à Genève, avec des personnes qui se sont rendues à Gênes. Et pourquoi pas de recenser quelques témoignages que du coup, l'on vous communiquerait.
Oui, ça sera avec plaisir et il n'y a aucun problème pour ce que vous diffusiez les témoignages qui sont sur notre site. Hein. c'est fait pour. Je pense que nous, l'idée, c'est de continuer à en parler, justement d'éviter cette période creuse et continuer à en parler pour informer. Et donc, ça irait complètement dans notre sens. Hein. Avec plaisir, il n'y a aucun problème.
Ok, ben on prend bonne note en tout cas. Et le message est passé avec les personnes du Silure, probablement. Je vois que ça opine du chef, que ça, voilà. Concernant les, alors voilà, justement, concernant les alliances, y a-t-il autour de vous des collectifs similaires? Que disent les médias? Que dit la population? Parce que on sait, il y a une information, il y a une réalité, puis ensuite il y a ce que l'on fait de la réalité, les questions, la manière dont on questionne la réalité, dont on la répercute, dont on la relaie. Alors voilà, qu'en est-il des médias? Y a-t-il une couverture à un moment donné? Cette couverture continue-t-elle ou fait-elle défaut désormais? Et est-ce que vous sentez de la part de la population en général, comme ça, entre guillemets, par défaut, c'est pas ça, c'est pas le vrai mot, mais disons par inertie, une forme de solidarité, au moins d'accord avec ce que vous dites?
Alors, concernant la couverture médiatique, je pense qu'on a fait un gros travail la première année, donc août 2019, justement pour alerter. Et là, on a assez bien réussi notre coup. Et depuis, on peut dire quand même que les journalistes qui nous suivent sont assez fidèles, dans le sens où régulièrement, ils nous sollicitent pour savoir où on en est, quelles sont les infos. Donc, malgré qu'on soit une toute petite commune, je crois qu'on avait mis les moyens pour toucher les médias et on a relativement réussi notre coup. Alors on poursuit, mais pour ça il faut du grain à moudre, de la matière, et c'est ce qui nous manque en ce moment, parce qu'effectivement, on a des dates potentielles et c'est tout ce qu'on a, et souvent les médias ont besoin de matière. Donc, on n'hésite pas à chaque fois justement qu'on a une nouvelle action, quelque chose, à les solliciter. Par contre, on est suivi par les radios locales et radios associatives, mais ça c'est un réseau qu'on côtoyait déjà. Et sur les autres groupes, en fait, on a activé tout simplement nos réseaux localement. On a permis la création de comités ailleurs en France, en Bretagne, à l'étranger, mais c'était beaucoup des réseaux qu'on a activés, nous. Ce qui se trouve que dans notre petite commune, on fait quand même pas mal de choses, on est ouvert sur le monde. On avait entre autres organisé pas mal de rencontres de chorales, des choses comme ça, où on avait eu l'occasion de croiser des chorales italiennes, espagnoles. Donc on s'est servi en fait de tous ces réseaux-là pour continuer à informer, discuter, informer aussi les pays européens. Mais voilà. Et sur la population locale, alors je vais peut-être pouvoir laisser Laurence répondre, mais je pense que localement, on a réussi à informer à peu près correctement les tenants et les aboutissants de cette histoire. Mais la difficulté, c'est, on va dire, le public lambda, qu'on touche quand même beaucoup plus difficilement. Et effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a énormément d'informations. Par exemple, aujourd'hui, 20 juillet, à part quelques journaux engagés, moi, je n'ai pas vu grand-chose transpirer au niveau des 20 jeunes, par exemple.
Oui. Tout à fait, oui, effectivement, c'est le même constat un petit peu qu'on porte depuis chez nous. Et c'est pour ça qu'on essaie justement de... Voilà, cette histoire-là, cette contre-histoire, ou cette histoire combative, disons, eh bien pour nous, il est important de la relayer, de la faire surgir. J'aimerais déjà vous remercier beaucoup, Jean-Pierre et Laurence, d'avoir pris ce temps en ce jour, parce que j'imagine que vous avez d'autres actions qui vous attendent là où vous êtes. On va rappeler, pardon, le site internet, c'est www.comité-soutien-vincenzo.org. Et puis voilà, alors, je me tourne vers les personnes qui sont là parmi nous. Si des questions surgiraient, je pense qu'il serait temps de les poser. Et puis, sinon, on va doucement se saluer. Alors, une question depuis... Pierre, dis-moi. Alors voilà, que dit Vincenzo de tout ce qui lui arrive en ce moment? Ça rejoint un peu la question sur son état d'esprit actuel, mais voilà, comment est-ce qu'il vit ça?
Je crois que Jean-Pierre tout à l'heure l'a bien exprimé, et je pense que je vais aller dans ce sens-là. Vincenzo, quand il a été arrêté, il s'est retrouvé incarcéré pendant 3 mois, donc là, de toute façon, il n'a pas eu le droit à la parole, bien sûr, même s'il nous écrivait quelques lettres, etc. Mais quand il en est sorti, il était absolument atterré de ce qui s'était passé, de ce qui continuait à se passer, et presque un peu gêné, si vous voulez, de tout ce mouvement, tout ce bruit qu'on faisait autour de sa situation, son affaire, etc. Aujourd'hui, le fait que, au-delà de son cas à lui, ce soit le cas de juridique qui soit en lice, hein, avec cette demande auprès de la Cour européenne de justice. Ça élargit les choses, ça n'est plus centré sur sa seule personne, et c'est quelque chose qui pour lui l'intéresse. ça l'intéresse qu'effectivement la Cour de justice européenne soit obligée de statuer en fait sur la légitimité ou pas de ce qui s'est passé à Gênes et des jugements qui s'en sont en suivi. Donc ça, c'est un petit peu son état d'esprit. Il est content, le terme n'est pas bon, mais en tout cas, il est satisfait du fait que ce ne soit pas seulement Vincenzo Vecchi qui soit au cœur de la question, mais les gens qui étaient à Gênes, les gens qui se sont retrouvés dans cette situation et qui ont été accusés de dévastation et saccage et de contrôle et de concours moral. Donc ça, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel il est.
Donc les réseaux sociaux, vous êtes présents sur Facebook, sur YouTube et également sur Twitter. Le site internet, comme on l'a dit, extrêmement bien documenté, c'est www.comité-soutien-vincenzo.org. Et puis, eh bien, nous, évidemment, on va rester en alerte, on va rester en contact. On espère que les choses vont évoluer rapidement. Peut-on, dernière question, avant que vous ne puissiez éventuellement lancer des appels à votre guise, peut-on espérer, parce que vous l'avez dit au début, que ce serait 2022 ou pas, mais y a-t-il encore un moyen de faire pression sur la Cour de justice européenne, peut-être, pour que quelque chose soit rendu dans des temps raisonnables ?
Non, ça, je crois que c'est complètement en dehors de nos capacités, de nos possibilités.
D'accord. Bon, ben écoutez, quoi qu'il en soit, ce qu'il y a d'assez chouette, c'est que vous entourez Vincenzo Vecchi. Comme vous l'avez dit, ben, il se sent soutenu dans sa lutte. Et ça, c'est, je pense, c'est ce qui est le plus important. Et puis, on va continuer de parler. Effectivement, nous, maintenant, on va prendre congé. Puis, on va continuer, effectivement, peut-être en citant les personnes qui ont été, effectivement, condamnées. Et puis, nous, on va continuer avec des lectures et on se tient au courant. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonne continuation et à bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir.